En voiture pour le 110e voyage littéraire à bord de Wagon Livre. En effet, comme chaque mercredi à 21h, je vous retrouve pour votre rendez-vous littéraire et culturel sur l'antenne de Radio-N. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Ce soir, nous allons explorer le Paris de 1915 et faire connaissance avec un enquêteur, Célestin Louise, flic et soldat dans la guerre de 14-18. Au menu de notre émission, un roman qui a pour titre « L'arme secrète de Louis Renault », un roman policier historique, donc, j'insiste, dont l'auteur se trouve ce soir devant notre micro. Thierry Bourcy, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je vous présente rapidement, je vous laisserai le soin d'ajouter quelques éléments qui vous semblent indispensables à votre identité. Vous êtes né en 1955, vous disposez d'une formation universitaire en psychopathologie, s'il vous plaît. Vous avez travaillé en hôpital psychiatrique. Ça m'a rappelé Christian Bobin, qui lui aussi avait travaillé en hôpital psychiatrique. Mais vous êtes un Breton.
Je suis né à Vannes, oui.
Et aujourd'hui, nous enregistrons l'émission ici, à la médiathèque de Clamecy, puisque finalement, de temps en temps, vous venez vous détendre dans l'air pur du Morvan et de la Nièvre.
J'ai quitté la Bretagne il y a plus de 30 ans maintenant pour m'installer à Paris, où m'appelait le cinéma et la télévision. J'avais le désir d'écrire, d'être scénariste. Et j'ai la chance d'avoir une petite maison, une petite résidence secondaire dans la Nièvre, cette très très jolie région, à Saint-Bonneau, près de Prémery.
Alors ce soir, vous êtes effectivement devant le micro de Radio-N pour un roman historique, L'arme secrète de Louis Renault, mais qui s'inscrit dans une série de romans policiers historiques. On citera La Côte 512, L'arme secrète donc de Louis Renault qui nous préoccupe ce soir, Le Château d'Amberville, Les Traîtres, Le Gendarme Scalpé, tous ces romans disponibles en folio policier, mais initialement édités chez...
Aux éditions du Nouveau Monde. C'est une édition spécialisée au départ dans l'histoire et qui a également une collection cinéma.
Alors, parallèlement à votre écriture romanesque, vous êtes aussi scénariste pour la télévision. Il y a forcément une proximité entre l'écriture romanesque et l'écriture de scénarii?
Il y a évidemment une proximité dans l'imaginaire, dans le plaisir de manier des personnages, de construire des histoires. Il y a une différence fondamentale entre les deux métiers. Le métier de scénariste est un métier d'équipe. Je travaille la plupart du temps soit avec un co-scénariste, soit avec le réalisateur, et toujours sous l'égide d'un producteur, et parfois également en concertation avec le diffuseur, c'est-à-dire la chaîne de télévision qui va diffuser le téléfilm. Donc ce travail d'équipe est très différent de ce que je fais en roman, puisque le roman, c'est la solitude devant la page blanche, enfin l'écran vide, puisque j'écris sur un ordinateur. Et donc, quelque chose qui se déroule très différemment, aussi bien dans le temps, dans la temporalité, que dans l'ambiance, dans mon rapport avec l'histoire que j'écris.
Vous avez produit donc des courts-métrages, vous avez aussi reçu un très grand nombre de prix, hein, quand on se rend sur votre site internet. Vous avez reçu des prix aussi bien pour vos pièces de théâtre que pour des scénarii. Et vous avez aussi reçu en 2010 le prix du Polar au Salon du Livre de Poche de Saint-Maur. C'était... Et parmi d'autres, hein, il y en a pas mal quand même des prix. Hein.
C'était une très belle surprise, parce que c'est un salon très, très important, en fait, le Salon de Saint-Maur. Ils font un travail magnifique. Je crois qu'ils sont en liaison avec une librairie assez connue, assez médiatique, qui s'appelle La Griffe Noire. L'ambiance est vraiment très bonne. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir ce prix. J'étais très heureux de ce prix du Polar. C'était, je crois, pour Le Château d'Amberville, pour le troisième opus de la série des aventures de Célestin Louise.
Vous enchaînez les écritures pour la télévision, donc j'ai dit des courts-métrages, des films documentaires. J'ai vu que vous aviez travaillé avec Jacques Trefouel, que j'avais eu l'occasion de rencontrer à l'époque où existait encore le Salon des auteurs nivernais. Je crois que c'était en décembre 2010, c'était au tout début de cette émission littéraire sur Radion. Jacques Trefouel qui ensuite a fait un grand nombre d'autres documentaire avec des personnages, des figures nivernaises au cœur de ces travaux. Alors, pièces de théâtre, et puis vous écrivez aussi des chansons. On aura d'ailleurs le bonheur d'en entendre quelques-unes ce soir, puisque vous me les avez procurées, ce qui permet aussi d'agrémenter notre causerie avec vos propres créations, ce qui est quand même formidable. C'est vraiment une émission très Thierry Boursienne ce soir.
Écoutez, c'est très très agréable et c'est très aimable à vous de m'avoir proposé ça, parce que les chansons dans ce que j'écris, c'est quelque chose d'un peu magique. Un scénario s'élabore dans la durée, comme je le disais tout à l'heure, en concertation avec les partenaires. Un roman s'élabore également sur une durée longue, de l'ordre d'un an. Une chanson, c'est magique, c'est quelque chose qui naît parfois en quelques minutes et qui prend sa place immédiatement. C'est comme une parole tombée de je ne sais où, de je ne sais quel ciel, et qui vient s'épanouir immédiatement. Et c'est une forme d'écriture, comme j'ai la chance de faire un peu de musique aussi, qui me m'étonne à chaque fois et me ravit.
Venons-en à l'arme secrète de Louis Renault, le polar historique qui nous intéresse ce soir. Alors, tout d'abord, vous avez toujours situé vos polars dans la période de la Grande Guerre. Pourquoi ? Alors, fascination, volonté aussi de dénoncer certains aspects terribles de cette grande boucherie, faire œuvre quelque part d'historien tout en jouant aussi le divertissement et le suspense d'un roman policier. Pourquoi la guerre de 14-18 ?
Au tout début, il y a ce téléfilm dont j'ai fait le scénario avec Jean-Louis Lorenzi, qu'il a réalisé ensuite pour France 2 et Arte, un téléfilm qui s'intitule « La tranchée des espoirs ». Téléfilm qui a été diffusé d'ailleurs récemment, rediffusé sur France 5 il y a quelques jours.
En février, oui, fin février.
C'est un téléfilm qui parle de fraternisation, un épisode de fraternisation entre Français et Allemands au cours de cette Première Guerre mondiale. Et c'était mon premier vrai contact, en fait, avec la guerre de 14-18. Je la connaissais comme de loin, comme tout le monde, par les monuments aux morts, parce que j'avais appris à l'école, par quelques photos vues ici et là, par les films aussi, comme Les Sentiers de la Gloire, quelques films classiques. Mais il a fallu, pour écrire ce téléfilm, que je me documente. C'était une documentation qui a duré 6 mois. 6 mois au cours desquels je me suis plongé dans les écrits des écrivains combattants, comme D'Orgelès, comme Chevalier, comme Genevoix, comme Sandrard, comme Barbus.
Zola des tranchées.
Voilà, magnifique, magnifique roman, le feu. Je me suis plongé dans les mémoires, le tonnelier Bartas, par exemple, qui est devenu un classique. J'ai eu la chance de trouver des mémoires inédits que m'ont prêté des gens. J'ai lu les mémoires d'un artilleur, les mémoires d'un officier. Et je me suis plongé dans les photos que j'ai trouvées partout, dans les livres documentaires, dans les études, les essais, dans les ouvrages d'époque, dans les journaux. Également, j'ai même eu la chance de découvrir un lot de photos sur plaque de verre, en stéréoscopie. Je me suis plongé dans les essais historiques aussi, bien sûr, les historiens, Audouin Rousseau, Offenstadt, Pierre Miquel. Et pour finir, je me suis évidemment, j'ai revu avec plaisir les films de fiction, quelques films documentaires, hein, bien sûr, mais beaucoup de films de fiction, comme Les Sentiers de la Gloire de Kubrick, Quatre de l'Infanterie de Pabst, Les Croix de Bois, ou Les Hommes contre de Rosie, le film de Tavernier, Capitaine Conan, ou La vie et rien d'autre aussi de Tavernier. autant de films. J'allais oublier la magnifique chambre des officiers de Duperron.
D'après le roman de Marc Duguin.
D'après le roman de Marc Duguin, absolument. Voilà. Donc j'ai vu, j'en oublie certainement. Hein, enfin, disons grosso modo, il y a un corpus de films de cinéma dont je me suis également imprégné. Et à l'issue de ce travail qui a duré, je vous l'ai dit, au moins 6 mois. Je me suis concerté avec Jean-Louis et on a mis en place des personnages. Donc je me suis imprégné de l'ambiance de l'époque pour me donner une bonne idée de ce qu'était la sociologie des tranchées. Et des gens modestes, beaucoup de paysans, des artisans, des petits employés qui se retrouvaient là, venant de toutes les provinces de France, sous les ordres d'officiers qu'ils comprenaient mal, qui n'étaient pas proches d'eux. Ce qui fait d'ailleurs l'objet d'une scène dans la cinquième aventure de Sylvester Lewis quand il découvre les soldats américains et que les poilus s'étonnent de la familiarité de leurs officiers qui, au scandale, déjeunent à la même table que leurs soldats. Donc pour les poilus, c'était quelque chose de très très étonnant. Donc fabrication des personnages inspirés de différentes lettres aussi. J'ai lu beaucoup de lettres, je l'oubliais, j'ai lu beaucoup de lettres de poilus. Inspiré de tout ce que j'avais lu, soldats français, soldats allemands qui vont fraterniser. Ensuite, après les personnages, il y a les conditions de vie, donc les armes, la nourriture, les uniformes, les casques, la façon dont ils bougent, la façon dont ils s'organisent, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, le rapport avec les officiers, les moyens de communication, la propagande, le courrier, les colis, etc. Et petit à petit, on a ébauché, on a élaboré ce film, cette histoire qui va rapprocher le temps de deux ou trois jours, 6 Français et 6 Allemands perdus, coupés par un bombardement du reste du front. Comme un conte, une sorte de conte philosophique en fait. Mais très humain, un conte humaniste aussi, et de toute façon très... très imbibé de la réalité de la guerre. Et c'est à la suite de ce téléfilm qui a remporté un vrai succès que Yannick Dehé, le directeur des éditions du Nouveau Monde, m'a proposé d'écrire un roman historique. Les éditions du Nouveau Monde sont spécialisées dans l'histoire. Ils ont également une branche, une collection cinéma. Mais essentiellement, au départ, c'était une édition de livres d'histoire. Et j'étais la première fiction de leur édition. Il m'a proposé d'écrire un roman. Et j'ai tout de suite répondu, d'accord, mais ce sera un polar. Alors, policier, pourquoi ? Parce que, d'une part, j'ai toujours aimé ce genre. J'ai été, à 10-12 ans, j'étais nourri aux Arsène Lupin. Et j'allais guetter leur sortie en livre de poche. Parce qu'ils étaient, à l'époque, ils sortaient un par un en livre de poche. Conan Doyle et Sherlock Holmes, bien sûr. Et puis après, ça a été les polars plus adultes, bon, les classiques comme Agatha Christie, puis maintenant j'ai des auteurs fétiches comme Tony Hillerman, James Ellroy, bon, bref, et puis j'aime bien aussi, il y a des Français qui écrivent très bien, comme Denynx, bon. Et donc, ça a été un polar aussi parce que lorsque j'écrivais le scénario de La Tranchée, l'idée m'était venue, mais comme une idée qui traverse la tête, en me disant, tiens, ce serait curieux, un flic qui ferait des enquêtes dans l'univers de 14, dans les tranchées. Et puis l'idée, elle est restée dans un coin de la tête, et puis j'ai ressorti à ce moment-là, j'ai dit à Yannick Dehé, je lui ai dit, oui, moi je veux bien écrire un roman, mais ce sera un polar, et ça va être un flic qui va être mobilisé. Il a dit, d'accord, banco, on y va.
Alors, on reparle de Célestin Louis, donc ce flic soldat que l'on retrouve, qui est un personnage donc forcément récurrent, que l'on retrouve dans chacun de vos polars historiques. On va marquer une petite escale justement en chanson et on va avec une chanson bien connue, chanson contestataire aux paroles antimilitaristes et subversives, on va redécouvrir la fameuse chanson de Craon qu'on écoute interprétée par Gérard Pierron. On se retrouve dans quelques minutes avec notre invité Thierry Bourcy.
Quand au bout de 8 jours, l'heure faut terminer, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut, en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Ces malheureux de voir sur les grands boulevards, tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leur bien. Car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'on le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troupions vont tous se mettre en grève. Ça sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre,
la chanson de Craonne, interprétée par des soldats français durant la Première Guerre mondiale entre 1915 et 1917. On revient avec vous, Thierry Bourcy, qui est notre invité ce soir, sur la naissance de ce personnage de papier qu'est Célestin Louise. Alors c'est amusant, bon, ce très joli prénom, Célestin, et ce patronyme féminin, Louise.
Alors oui, c'est...
Pourquoi, comment faites-vous ? Alors, ça m'intéresse toujours. Comment faites-vous, les romanciers, pour trouver les prénoms, les noms ? Est-ce que vous faites comme Balzac ? Vous allez dans les cimetières, regardez les noms et les prénoms sur les tombes ? Ou alors on pioche tout simplement dans son propre univers familial aussi, je crois, me semble-t-il.
Oui, alors moi j'ai ma méthode. Là, c'était simple, le prénom de Célestin, c'était celui de mon grand-père paternel, Célestin Bourcy, un Lorrain venu s'installer en Bretagne au XIXe siècle et dont le premier fils Joachim, né en 1897, est mort à Verdun à 18 ans en arrivant sur le front. Et c'est à lui, ce demi-oncle, que j'ai dédié mon premier livre, La Côte 512. Donc pour aller vite, ce grand-père a eu une première femme qui est décédée, et il s'est remarié, et il a eu 5 fils avec sa seconde femme. Je suis le fils du dernier des fils, qui est né en 1922. Donc, ce qui explique que, comme il y a une différence entre les deux demi-frères de 25 ans, ce qui explique que j'ai un oncle mort à la guerre de 14, ce qui est assez peu fréquent dans ma génération. Alors j'ai une méthode, moi, pour les personnes, pour les noms de famille. En général, je prends une carte d'une partie de la France et je prends des noms de petits villages, ce qui m'évite d'avoir des problèmes avec des gens connus qui se reconnaîtraient, qui ne seraient pas contents qu'on ait utilisé leur patronyme. En l'occurrence, ici, c'est un peu différent. Je l'avais appelé Célestin Louis et je ne sais pourquoi, un jour, j'ai décidé de le féminiser, de lui donner, de mettre un E à la fin, de l'appeler Louise. Peut-être parce que ça le décale un peu de son personnage de flic, soldat, qui est quelque chose de très, très, très viril, très, très, très martial. Et ça me permettait aussi, d'une manière un peu plus malicieuse, d'avoir des phrases un peu décalées en utilisant son nom de famille. Par exemple, Louise prit son fusil, ou Louise évita la salve ou l'éclat d'obus. Bref, tout d'un coup, on a l'impression que si on prend la phrase comme ça, qu'une femme se trouve égarée dans les tranchées. Donc c'est un petit côté, un petit clin d'œil. Et puis finalement, ça a bien marché. C'est un patronyme qui s'est imposé assez facilement au lecteur.
Alors, le roman dont il est essentiellement question ce soir, donc a pour titre, je le rappelle, « L'arme secrète de Louis Renault ». Alors, Célestin Louise, donc l'action commence en hiver 1915 sur le front de Champagne. Célestin Louise est en fait reversé pour une permission exceptionnelle dans son corps d'origine, à savoir la police, le quai des Orfèvres, où on lui confie une mission ultra secrète, gravissime, parce que l'industriel Louis Renault s'est fait dérober dans son coffre-fort les plans du prototype d'un char qui est censé apporter la victoire éclatante à la France. Et c'est le début d'aventures palpitantes menées donc par votre détective ou inspecteur, je ne sais pas trop quel est son grade, c'est
un inspecteur.
Il est inspecteur, Célestin Louise, dans un Paris que vous semblez connaître comme votre poche, avec les noms de rues. C'est aussi une promenade dans un Paris dédié à l'automobile, au début de l'automobile, puisque Célestin Louise a un chauffeur qui l'accompagne dans ses déplacements. Alors bien sûr, on se déplace dans des quartiers extrêmement paisibles où se trouve l'hôtel particulier de Louis Renault. On est tantôt au spectacle, parce que à l'arrière, évidemment, à Paris, la vie s'organise et la vie est plutôt agréable et douce, ce qui ne manque pas de choquer Célestin Louise.
C'est un sentiment partagé par beaucoup de poilus. Lorsqu'il arrivait en permission à l'arrière, il se sentait complètement déphasé et complètement oublié, en fait. Ils avaient l'impression que la vie continuait sans eux, que leur sacrifice sur le front n'avait plus de sens. À tel point, c'est de cette façon que je termine mon premier livre, La Côte 512, à tel point qu'il se sentait plus proche des Allemands qu'il combattait, des ennemis, de ceux d'en face. Il se sentait plus proche des pauvres gars qui partageaient leur sort sur le front que des embusqués ou des gens qu'il retrouvait durant les permissions. Ils avaient du mal à partager même cet enfer qu'ils connaissaient, et parfois leur présence n'était pas toujours la bienvenue quand ils arrivaient sales, crottés en ville. Donc c'est une chose importante que j'ai voulu traiter, en même temps que quitter l'univers de la tranchée dans lequel j'avais situé quasiment l'intégralité du premier livre, de la première enquête. Donc ça m'intéressait de changer d'univers aussi, de développer aussi cet univers qui est assez peu connu, parce que oui, c'est vrai que les gens s'étourdissaient, qu'il y avait beaucoup de spectacles, le cinéma, le théâtre, l'opéra, mais en même temps c'était aussi une ville qui était bombardée. les taubes, comme on les appelait, les avions allemands, bombardaient Paris, ce qu'on a un peu oublié en 1915. Donc, c'était une ville soumise au rationnement. Donc, c'était pas, la nourriture n'était pas toujours abondante. Et c'était une ville que Céline a magistralement décrite dans les 50 premières pages du Voyage au bout de la nuit. C'était l'effervescence, des uniformes de toutes les couleurs, des associations plus ou moins bidons, des escrocs partout, des brassards.
Vous l'écrivez, Thierry Bourcy, hein, les représentants d'une faune hétéroclite s'y croisaient, officiers de différents pays, affairistes étrangers, fils de familles embusquées, artistes, colporteurs, petits escrocs, mendiants et millionnaires. Et puis, il y a ces femmes aussi qui ont remplacé les hommes. Elles conduisent des bus. Enfin, il y a une contrôleuse de bus. Et dans les usines, ben, ce sont elles qui font tourner les usines. C'est aussi, tout d'un coup, les femmes qui commencent à acquérir leur émancipation et leur, peut-être, début de liberté, un peu, dans le monde du travail.
C'est un aspect important de cette époque. Effectivement, c'est la position des femmes qui vont remplacer les hommes dans beaucoup d'emplois et qui vont prendre un premier essor. Mais la chape de plomb de ce qu'on a appelé la chambre bleu horizon, c'est-à-dire le Parlement tout d'un coup investi par les soldats, par les gens qui ont fait la guerre, les soldats qui ont fait la guerre, va remettre ces femmes à leur place malheureuse, à leur trop modeste place. Il faudra attendre en fait la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour voir les femmes accéder au vote et puis à un véritable début d'émancipation. Mais c'est vrai que dans cette petite période de 4 ans, les femmes ont connu de fait une importance, ont pris une importance dans la société du fait du départ des hommes.
Puisqu'on a la chance d'accueillir un invité au talent multiple, eh bien, non seulement il écrit des scénarios, il signe des romans historiques, il réalise des courts-métrages, écrit et compose des chansons, eh bien, nous allons vous faire découvrir une d'entre elles. Voici Blonde à croquer, puisqu'en plus on parle de ces parisiennes qui défilent dans le roman et qui ne laissent pas d'ailleurs Célestin Louise indifférent. On écoute donc Blonde à croquer. Parole de notre invité, Thierry Bourcy, musique de Thierry Boulanger, sur une interprétation d'Annie Papin dans son album L'amour farci, 17 chansons de cuisine d'amour chantées avec gourmandise. Donc, on écoute cette chanson tout de suite sur Radio et on se retrouve dans une poignée de minutes avec notre invité Thierry Bourcy.
C'était un petit japonais qui n'aimait que les grandes blondes. Pour une femme aux yeux clairs, il aurait fait le tour du monde. Un jour dans un bateau mouche, une fille aux cheveux d'or lui a mis l'eau à la bouche, lui a mis le diable au corps. Comme il avait un petit creux, comme il avait le vague à l'âme, il a dévoré les yeux le joli fruit d'Amsterdam. Elle n'était pas dans son assiette, mais il lui a fait du plat, invitant la gigolette dans un restaurant chinois. Elle était appétissante et dorée comme du bon pain. Il l'a ramenée dans sa soupente près du marché Saint-Quentin. L'amante religieuse engloutit tous ses amants. Dans notre histoire malheureuse, c'est le contraire, évidemment. Elle était blonde à croquer, il l'a prise au pied de la lettre. Après l'avoir dévorée, il n'a laissé que son squelette.
Je rappelle ce soir que nous sommes avec Thierry Bourcy, auteur de romans policiers historiques, notamment de L'arme secrète de Louis Renault. Alors Thierry Bourcy, puisqu'on est dans la gourmandise, eh bien, et notamment celle des chansons et des mots, on va proposer à nos auditrices et auditeurs un autre morceau, très bref, hein, c'est presque une virgule musicale et chorale. On écoute Gâteau au miel. Paroles et musique de vous-même, Thierry Bourcy, sur une interprétation de Annie Papin, toujours extrait de l'album L'amour farci. Voici donc Gâteau au miel.
Je t'avais fait un gâteau au miel, mais tu n'aimes pas ça. du sucre et du sel, mais tu n'aimes pas ça. Pourtant j'y avais mis tout mon cœur, tout mon cœur. La prochaine fois, je crois que je ferai un fourré au chocolat.
C'était gâteau au miel. Alors elle ne vend pas ni sucrerie, ni miel, ni gâteau, mais plutôt des pâtisseries littéraires. Le moment est venu d'accueillir devant notre micro notre bien-aimée lectrice impénitente, Evelyne Levallois, pour le coup de cœur de la semaine de la librairie L'Autre Monde, installée à Avallon. Bienvenue parmi nous. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir Yannick, bonsoir à toutes et à tous. Le coup de cœur de la semaine sera un classique de la librairie L'Autre Monde. Ça s'appelle « Seul dans Berlin » de Hans Falada et c'est disponible aux éditions Folio en format poche. L'histoire, on est dans Berlin en mai 40 et la ferveur nazie est à son point le plus haut. Voilà. L'histoire, c'est celle d'un couple, ils ont une cinquantaine, lui, il est ouvrier modèle, elle aussi, ils n'ont pas d'histoire, ils sont pas pour ni contre Hitler, ils sont pour l'homme qui leur a donné du travail, hein, voilà, qui les a sauvés de la récession. Et ce jour-là, ils reçoivent un courrier comme quoi leur fils unique est mort au champ de bataille pour le pays. Et là, ça va briser quelque chose chez eux, ils vont se rendre compte de... on va dire de la vacuité du programme nazi et de son non-sens, on va dire, voilà. Et donc ces deux Allemands sans histoire vont verser dans la résistance anti-nazie, voilà. Ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que c'est un roman qui est très très drôle, hein, donc c'est une farce. Donc il va verser dans la résistance anti-nazie, mais ça n'a ni queue ni tête, puisqu'il va écrire des cartes postales qu'il va abandonner avec des messages censés être subversifs, mais qui sont souvent plus abscons qu'autre chose, qu'il va abandonner dans Berlin. Hein, voilà, donc. L'histoire, c'est aussi l'histoire de tout un immeuble, puisque au rez-de-chaussée de leur immeuble, il y a une famille nazie qui dénonce tout le monde pour avoir de l'argent. Il y a la vieille dame qui est soupçonnée d'être juive, mais on n'est pas sûr qu'elle soit juive, mais tout le monde l'a dénoncée au moins une fois. Il y a le juge qui, lui, essaye de résister au nazisme comme il peut, mais qui n'y arrive pas vraiment. Et puis, il y a ce couple d'étranges personnes qui diffusent des cartes postales dans tout Berlin. Donc, c'est un roman très drôle sur... la résistance anti-nazie, c'est un livre que Primo Levi qualifiait comme le plus grand livre jamais écrit sur la résistance allemande aux nazis. C'est un livre qui date de 46, l'auteur est mort en 47, donc c'est vraiment quelque chose de très très frais par rapport au nazisme et qui met vraiment le doigt sur des choses très très sensibles tout en étant très très drôle. Voilà. Donc pour tous ceux qui veulent passer et un bon moment, on est là à la rencontre de l'histoire. Je rappelle, ça s'appelle Seul dans Berlin, Hans Falada, aux éditions Folio.
Traduit de l'allemand par André Van de Voorde et Virel, c'est donc effectivement un petit poche à glisser à l'intérieur du manteau pour redécouvrir les douceurs du printemps. Evelyne, rapidement, quelles sont les meilleures ventes de la semaine à la librairie L'Autre Monde à Avallon?
Alors les trois meilleures ventes de la semaine, si on oublie Stéphane Hessel, hein, bon, j'en ai déjà parlé la semaine dernière pour les raisons qu'on sait, indignez-vous, qui marche toujours très bien. La meilleure vente de la semaine est un auteur du coin. Hein, il est bourguignon, il s'appelle Monsieur Jolibois. Il est l'auteur de toute une série de livres jeunesse, hein, Les Petites Poules et Petit Coq. Voilà, et donc ça, c'est la meilleure vente de la semaine. La deuxième meilleure vente sera la revue 6 mois, hein, 6 mois qui est le condensé de la revue 21 qui paraît tous les 6 mois. Donc là, on a très très bien vendu la nouveauté. Et puis le roman qui marche fort en ce moment, c'est le Stephen King, 22 septembre 63, sur l'assassinat Kennedy.
Merci Evelyne, rendez-vous mercredi prochain pour un autre coup de cœur.
Merci Yannick, bonsoir.
Merci Evelyne de nous faire un peu plus palpiter chaque semaine grâce à ton coup de cœur. Le nôtre ce soir va vers les aventures et le suspense qui ponctuent l'enquête de notre flic et soldat Célestin Louise dans le roman policier historique de notre invité Thierry Bourcy, auteur de L'arme secrète de Louis Renault, disponible en folio policier. Alors on va laisser un peu de côté l'éloge de ces femmes courageuses qui ont bien été obligées de remplacer les hommes. J'aimerais, Thierry Bourcy, que vous nous parliez un peu de Louis Renault. D'ailleurs, le roman, les premiers mots du roman, dans le prologue, c'est Louis Renault. Alors, Louis Renault, c'est historiquement, effectivement, bien lui qui va dessiner les plans ultra secrets donc du char FT-17, plans donc qui sont dérobés dans votre roman, mais qui dans l'histoire n'ont jamais été dérobés. On est bien d'accord. Là, le romancier peut, j'allais dire, s'amuser avec l'histoire. Alors, Louis Renault a bien mis ses usines au service du pays. Il a fourni l'armée française en avion, en camion et même en obus. Et il semblerait quand même que l'idée de produire un char ne convainque pas complètement l'état-major français en 1915, en tout cas au moment où se situe l'action de l'arme secrète de Louis Renault.
Non,
il y a des réticences, semble-t-il.
C'est l'objet d'une scène qui m'a semblé importante parce que les généraux, contraire d'aujourd'hui, à chaque fois nous sommes en guerre au Mali, à chaque fois qu'un soldat français est tué, on en est à 4, ça fait la une des journaux, c'est l'entrée des journaux télévisés. C'est bon. Là, c'est le contraire, c'est-à-dire que la chair à canon, les poilus, c'est de la chair à canon. Il n'y a aucune espèce de préoccupation de la part des officiers, des généraux, d'économiser le matériel humain. Donc, ce qui est terrifiant. Donc ils partent à l'assaut, ils sortent des tranchées et face à une arme qu'ils ne connaissaient pas encore, qui s'appelle la mitrailleuse, qui décime les régiments en quelques minutes. Donc face à ça, les poilus sont démunis et l'idée de monter à l'assaut protégé par un char, qui est la guerre moderne en fait, évidemment les rassurerait. Ce qui fait l'objet d'une scène dans mon livre où le témoignage de Célestin est requis pour exposer la façon dont les gars se font tuer, se font massacrer en fait en sortant de la tranchée. Ce qui va laisser les généraux et les responsables de l'armement un peu pantois. Parce que les généraux français ont toujours... je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais ont souvent eu une guerre de retard. Donc là, par exemple, si je prends l'aviation, la première phrase des généraux français, ça a été « Les avions, ça ne servira jamais à rien qu'à faire des photos. » Bon. Position de l'état-major en 1914. 6 mois après, les gars mettent... donc, s'en servent quand même pour bombarder. Hein, on s'en sert quand même pour bombarder et prendre des photos. 6 mois après, les pilotes commencent à mettre des mitrailleuses en douce, en cachette, ils n'ont pas le droit, sur leurs avions. Donc on assiste au premier combat aérien fin 14. Et c'est seulement dans les années 15 et 16 que les vraies escadrilles de chasse vont être mises au point, structurées avec le Guinmer, Ningesser et compagnie. Bon. C'est pareil pour les chars. Les généraux n'ont pas tellement envie ne se préoccupent pas tellement de protéger leurs soldats. Et les premiers essais qui vont être faits avec les gros chars Saint-Chamond...
Les chars Schneider, vous donnez une question dans le roman,
effectivement. Les Schneider et Saint-Chamond vont être catastrophiques. Ce sont des chars trop imposants, mal conçus pour les tranchées. Certains ont même le réservoir à l'avance, et vous dire comment ils étaient exposés au premier tir d'obus. Il a fallu donc que Renault arrive avec un char plus léger, mieux fait, plus rapide, plus mieux adapté à la géographie des tranchées, pour que l'état-major se rende compte que c'était une arme extrêmement efficace et qui allait permettre, à la fin de la guerre, d'emporter la décision, alors que les Allemands, à cette époque, n'étaient pas convaincus encore par cet armement. On a vu qu'ils allaient changer d'avis quelques années plus tard.
Enfin, au moment où s'ouvre votre roman « L'arme secrète de Louis Renault », catastrophe à la fois pour l'industriel Louis Renault, catastrophe aussi pour le pouvoir politique et pour les généraux, on a dérobé les prototypes du char FT-17, des plans ultra secrets. Alors en plus, évidemment, le roman se double d'une affaire d'espionnage, mais je ne veux pas trop en dire. Célestin Louise, en tout cas, a, on peut dire, une épée de Damoclès. Il faut absolument, au cours de cette permission exceptionnelle qui se situe juste avant le réveillon de Noël, faut absolument qu'il retrouve les auteurs de ce vol. Il faut dire aussi que seules 3 personnes disposaient du code du coffre-fort de Louis Renault. Louis Renault, Dubreuil, le directeur des usines, et la femme. Enfin, la femme qui est Jeanne Hatto, c'est pas vraiment sa femme, c'est une maîtresse, mais qui...
Alors, Jeanne Hatto...
C'est qui Jeanne Hatto, justement?
Alors, Jeanne Hatto est une chanteuse, une cantatrice, très, très, très célèbre à l'époque, qui a été, en fait, la femme de la ville, Louis Renault. En fait, il l'aimait énormément. Il l'a toujours eu dans le cœur, de ce que j'ai lu. Ils avaient entre une relation qui l'a toujours marqué. Même si Renaud, après, a épousé une femme de la bourgeoisie, je pense qu'il a toujours eu pour Jeanne Hatto une immense tendresse. Et cette femme, effectivement, chanteuse à succès, était un personnage de la scène parisienne de l'époque.
Alors, peut-être pourriez-vous, Thierry Bourcy, nous lire quelques pages de votre roman « L'arme secrète de Louis Renault », notamment le passage où vous nous offrez une description des ateliers Renault.
Ils arrivaient en vue des immenses verrières des ateliers Renault. Une colonne de camions militaires quittait l'usine, tous chargés de ces obus de 75 si précieux pour les combattants et que l'industriel de Billancourt s'était engagé à fabriquer en nombre suffisant, mettant une bonne partie de ses ateliers au service de la machine de guerre. Célestin fut frappé de la façon dont la gigantesque usine avait repoussé la ville, essentiellement des petits pavillons avec jardin, marquant le long du quai son territoire de ferraille et de bruit, dont les frontières n'étaient pas uniformément tracées. Sur les trottoirs de certaines rues, des tas de gravats, des monceaux d'ustensiles rouillés, hors d'usage, des petites maisons aux volets fermés, aux jardinets laissés à l'abandon, témoignait de la guerre de conquête que l'industriel menait contre ses voisins. Mathurin laissa passer les camions et gara la voiture dans la cour de l'usine. Là, un pavillon assez imposant avait été transformé en bureau pour l'administration. Célestin grimpa les marches du perron en regardant autour de lui. L'usine ressemblait à une fourmilière. Partout, des employés en blouse grise, des ouvriers en grosses vestes noircies de graisse, des livreurs et des magasiniers poussant des chariots de pièces détachées se croisaient, pressés de regagner leurs bureaux ou leurs ateliers. Là encore, beaucoup de femmes avaient été engagées, tout spécialement dans les fabriques d'obus. Les grandes grèves que l'arrivée du taylorisme avait provoquées 4 années auparavant semblaient complètement oubliées, et Célestin n'ignorait pas que, à Billancourt, en ces temps de guerre, les ouvriers trop peu nombreux faisaient des journées de 11 heures.
Merci Thierry Bourcy. C'est donc une description des ateliers Renault. Là, comment s'y prend-on? On a le droit de tricher avec la réalité ou on essaie de décrire par rapport à des clichés de l'époque?
J'ai vu des photos, j'ai lu des biographies de Louis Renault. Et j'ai lu des ouvrages historiques sur l'économie de guerre. Et donc, l'usine, c'était Billancourt. Hein, donc, la géographie, on peut l'imaginer. On peut imaginer une usine qui prend ses aises, qui s'agrandit petit à petit en chassant les petits propriétaires de pavillons, ce qui était monnaie courante, hein, donc, et ce qui a été le cas de Renault. Donc, je pense que la description, même si elle n'est pas tout à fait exacte, est suffisamment inspirée de renseignements et de photos authentiques pour donner une bonne idée de ce que ça pouvait être.
Si vous venez de nous rejoindre sur le 90.5, sachez donc que vous êtes à bord de Wagon Livre avec Thierry Bourcy, qui est romancier, notamment auteur de « L'arme secrète » de Louis Renault, que l'on peut se procurer aisément en collection Folio Policier. Si d'ailleurs vous avez manqué le début de notre rendez-vous, eh bien vous le retrouvez d'ici quelques jours disponible en téléchargement sur le www.radion.fr. Et puisque notre invité écrit aussi des chansons, eh bien une petite respiration musicale avec une chanson que vous avez écrite. J'ai retenu la chanson d'automne que j'aime particulièrement. Alors, la musique est de vous et c'est vous qui interprétez cette chanson d'automne que l'on offre à celles et ceux qui nous écoutent. On se retrouve dans quelques minutes, toujours sur Radion, en compagnie de Thierry Bourcy.
une toute petite flamme au fond de la cheminée. M'emporte, m'emporte l'âme par-dessus bien des années. Je revois les bois d'automne et les grands arbres couchés. J'entends la cloche qui sonne, le bonheur au vieux clocher. Le vent murmure la mer en chassant les feuilles mortes. Je mets mon gros pull vert, je t'attends devant ma porte. Tu souris et tu te poses sur les bras du vieux fauteuil. Il reste encore une rose dans le jardin qui s'endeuille. La vapeur de l'eau qui bout a embrouillé la fenêtre. Je ronronne à tes genoux, tu fumes une cigarette. Juste un nuage de lait dans le thé qui vient de Chine. Sais-tu combien tu me plais? Sais-tu ce que j'imagine? Nous avons la nuit passée dans les draps de la tendresse, nos corps longtemps caressés, le plaisir et les ivresses. Au matin, le grand soleil, souriant comme une image, nous a tiré du sommeil en dissipant les nuages. Le printemps est revenu, tiré sur nos couvertures. Tu as repris ta voiture, je ne t'ai jamais revu. Une toute petite flamme au fond de la cheminée m'emporte, m'emporte l'âme par-dessus bien des années.
À l'instant, chanson d'automne écrite, donc la musique, les paroles et chanson interprétée par notre invité Thierry Boursy qui est devant notre micro pour l'arme secrète de Louis Renaud. Thierry Boursy, on a essayé, hein, c'est difficile de tout rendre compte en une heure, et puis moi je ne peux qu'encourager les auditrices et auditeurs à se procurer votre roman, collection Folio Policier. Donc on peut mentionner aussi tous les autres, hein. Il y a La Côte 512, le Château d'Amberville, Les Traîtres, Le Gendarme Scalpé, tous romans policiers dont l'action se situe à différentes périodes, hein, de la guerre 14-18. Bon, l'arme secrète de Louis Renaud, c'est en hiver 1915. Les soldats ont besoin tout de même de repos. Comment organise-t-on les loisirs des troupes? Comment les divertit-on?
Mais après être passé en première ligne puis en deuxième ligne, les soldats donc avec quelques jours de repos soit dans des fermes, soit dans des hameaux un peu légèrement en arrière du front. Et là, déjà ils passaient du temps à dormir, à se nettoyer, enlever les poux de leurs vêtements, les recoudre. Parfois certains, quand il y avait un bistrot, allaient boire un coup, compter fleurette à la fille de l'épicier du coin qui avait augmenté, doublé, triplé ses prix. Il y avait toute une petite vie qui s'organisait, une espèce de vie de village un peu provisoire, un peu artificielle, mais qui existait quand même. Et l'état-major organisait des représentations de théâtre aux armées. Donc des troupes ambulantes passaient et interprétaient devant le public des poilus des pièces de théâtre. Il y avait également des petits concerts, des fanfares. Et donc j'ai choisi de mettre en scène dans mon roman une de ces troupes de théâtre qui va interpréter une pièce héroïque, presque de la propagande, devant les poilus, ravis de voir une jeune et jolie actrice sur scène.
Alors c'est la troupe Montansier avec sa vedette Eulalie Borel. Le théâtre a son, l'univers du théâtre, des actrices a son importance aussi quand même dans ce roman, parce que finalement il y a de drôles de personnages aussi qui circulent dans cet univers. Je n'en dis pas plus. Peut-être pourrait-on alors, Thierry Boursy, vous demander de nous lire une représentation, à quoi ressemble une de ces pièce patriotique, effectivement, qui montre toujours la femme persécutée par le par l'Allemand, qui est toujours présenté comme un barbare, comme un lâche. Hein.
Là, je vais donc vous lire un extrait de la pièce qui, en fait, est interprétée au théâtre aux armées au début du roman et qui est reprise à Paris par cette même troupe, donc dans un théâtre. L'intrigue de la pièce était très mince, une sorte de calque de celle que la compagnie avait présentée aux soldats du front, en un peu plus subtil cependant. La jeune héroïne qui avait vu son beau fiancé partir à la guerre, scène larmoyante du premier acte, se faisait courtiser non pas cette fois par un officier allemand, mais par un embusqué français, un fils d'aristocrate ayant acheté son exemption à un médecin véreux et qui déployait des trésors d'imagination et d'arguments fallacieux pour faire tomber la jeune femme dans ses filets. Mais la belle tenait bon jusqu'à ce que l'odieux séducteur fabrique un faux message annonçant la mort du poilu. C'était le moment le plus émouvant de la pièce. Après avoir été tentée de se laisser consoler par le fourbe, l'héroïne le repoussait au moment même où le fiancé revenait couvert de gloire et confondait le traître. Eulalie Borel, magistrale, ne faisait pas dans la demi-mesure et passait hystériquement du rire aux larmes, de l'inquiétude à l'espoir avec une énergie impressionnante. Le méprisable fils de famille était interprété par Fernand Massion, qui se délectait visiblement de l'ambiguïté de son personnage. Et c'était Riffet qui partait au début défendre la France contre l'envahisseur et revenait à la fin pour prendre sa récompense aux lèvres de sa belle. La mise en scène, simple et efficace, jouait sur les sentiments patriotiques et la salle chavirait, s'indignait, pleurait ou riait aux bons endroits.
Merci Thierry Bourcy, c'était donc un extrait de L'arme secrète de Louis Renault. Vous écrivez du théâtre, le théâtre a donc son importance dans le roman. Le roman commence par un prologue. Alors, je pensais que c'était un clin d'œil à la tragédie antique, en tout cas aux anciens. Et puis le premier chapitre s'intitule « Théâtre », avec effectivement cette ambivalence sémantique, « Théâtre des opérations » et « Théâtre aux armées ». Plaisir aussi d'une construction en abîme, de certaine manière, le théâtre dans le théâtre aussi. Théâtre du roman, théâtre des opérations et ce théâtre aux armées.
Oui, dans la mesure où j'abordais dans ce deuxième roman l'image que les gens de l'arrière avaient du front, image déformée, déformée par la propagande, colportée par les journaux, image que les poilus avaient bien du mal à réhabiliter, à redresser quand ils venaient en permission. Et là n'était peut-être pas leur première préoccupation d'ailleurs, dans la mesure où je travaillais l'image, donc j'ai mis en scène effectivement le théâtre qui renvoyait une espèce de lui-même une image déformée très très patriotique du poilu et qu'on retrouve ensuite à Paris, qui était bon ville lumière, ville du théâtre, ville de la création artistique et qui va être importante dans ce roman, puisque la maîtresse de Louis Renault, comme on le disait tout à l'heure, est elle-même une chanteuse d'opéra.
Célestin Louise va-t-il connaître d'autres aventures? C'est-à-dire que êtes-vous en train d'écrire d'autres enquêtes de Célestin Louise, toujours dans le contexte de la guerre de 14-18?
Mais oui, cher Yannick Petit, car j'ai déjà écrit le sixième opus de cette série, Le crime de l'Albatros, qui se passe en 1919 et qui va amener Célestin à enquêter et à retraverser les champs de bataille encore envahis envahis d'acier et de bombes et en pleine reconstruction. Et donc cette aventure commence dans un studio de cinéma, le studio d'Albatros, où on découvre un producteur assassiné, et puis se termine dans le port du Havre, mais je ne vous en dis pas plus.
Parfait. En tout cas, qui a dérobé les plans ultra secrets du prototype du char FT-17, c'est en lisant L'arme secrète de Louis Renault en folio policier, et puis On recommandera aussi donc la Côte 512, le château d'Amberville, les traîtres, le gendarme scalpé de notre invité Thierry Bourcy, toujours chez Folio Policier. Merci Thierry Bourcy d'avoir été ce soir devant le micro de l'émission littéraire de Radio, et merci aussi d'être venu avec les intermèdes musicaux jaillis de votre inspiration et de vos talents multiples. En tout cas, ce fut un grand plaisir de pouvoir aussi rendre hommage à ces soldats, et 2014 sera aussi une très belle occasion, avec le centenaire du début de la guerre, de sans doute revenir un peu sur les commémorations d'une guerre qui paraît lointaine quand même maintenant.
Oui, guerre lointaine, mais en même temps présente, puisqu'elle marque en fait le début de la modernité. C'est la fin d'un monde et c'est le début d'un monde, de notre monde, puisque elle est à la fois loin et près par bien des égards. En tout cas, ce plaisir de l'interview fut partagé. J'ai passé un très bon moment sur Radio Yonne.
Oui, voilà. Radio. Merci Thierry Bourcy et bonne soirée à vous. Thank you.